7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Amélie Beaucourt.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans 7 milliards de voisins. À l'approche des vacances, on s'est demandé dans l'émission quel livre est-ce qu'on allait bien pouvoir embarquer dans nos valises. Les écoliers, eux, n'auront pas beaucoup le choix puisque plusieurs écoles imposent une liste d'ouvrages à ingurgiter avant la rentrée. Et c'est cette contrainte qui en décourage plus d'un, à tel point qu'à l'âge adulte, ils se persuadent que la lecture n'est pas pour eux. Alors comment retrouver le plaisir de lire? Comment donner envie à un enfant de se plonger dans un livre plutôt qu'un jeu vidéo? Quels sont les bénéfices de la lecture sur nos cerveaux? Et comment dénicher des livres près de chez soi sans se ruiner? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre tout au long de l'émission. N'attendez pas pour nous appeler et nous raconter votre relation à la lecture ou pour partager avec les auditeurs vos coups de cœur. Le WhatsApp de l'émission, c'est le 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Avec nous en studio, Laurie Pézeron, fondatrice du club de lecture Read, spécialisée en auteurs africains. Bonjour.
Bonjour.
Nicolas Garry, cofondateur du magazine littéraire en ligne Actualité. Bonjour.
Bonjour.
Et Pascal Perrault, directeur général du CNL, le Centre National du Livre. Bonjour à vous.
Bonjour.
La lecture a été désignée grande cause nationale par le président de la République, Pascal Perrault. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'on ne lit plus?
Je crois que le président de la République a déclaré la lecture grande cause nationale. C'était la dernière grande cause de son précédent quinquennat. Tout simplement parce que nous constatons une tendance à une érosion de la lecture depuis une trentaine d'années. Une tendance assez lente, heureusement, mais qui est particulièrement marquée chez les jeunes. Où on vient de lancer une enquête avec l'Institut Ipsos qui le montre encore. Nous avons un décrochage de la lecture entre le passage du primaire au collège. Décrochage qui est particulièrement marqué d'ailleurs chez les jeunes garçons. Ce coup de projecteur donné à l'importance de la lecture va nous permettre de lancer toute une série d'actions pour essayer de donner le goût de la lecture au plus grand nombre et particulièrement aux jeunes publics.
Cette érosion dont vous parlez, comment est-ce qu'on l'explique et comment on explique que ce soit les jeunes garçons qui décrochent en premier?
C'est une question qui nous importe. Alors on constate, hein, pour être très concret, que quand on est au primaire, en fait, les jeunes filles et les jeunes garçons aiment la lecture plaisir, on va dire, en dehors de l'école, à 90%. Et on tombe à 81% chez les jeunes filles sur la tranche 13-15 ans. Et chez les jeunes garçons de 13-15 ans, on tombe à 68%. Donc c'est très marqué. Alors il y a sans doute plusieurs explications, hein, comme toujours, à ce type de phénomène. Le premier d'entre eux, c'est l'omniprésence des tablettes, des écrans, qui est de plus en plus forte, en fait, et qui est très intrusive, en fait, dans la vie des jeunes, et qui les détourne probablement de la lecture. Aujourd'hui, en fait, le temps de lecture hebdomadaire est de 3h14 chez les 7-19 ans, et le temps de lecture quotidien, le temps de présence sur les tablettes est de 3h50 par jour. Donc on voit qu'il y a une concurrence très forte des tablettes qui se prolonge d'ailleurs sur les habitudes de lecture et sur le type de lecture, avec un problème de concentration qui est de plus en plus marqué et qui est apparemment plus fort chez les garçons que chez les filles.
Alors on a posé effectivement ces questions à nos auditeurs pour savoir comment ils lisaient, est-ce qu'ils aimaient la lecture, sinon d'où ça venait à leur avis. Et on a une première réponse qui est celle d'Arlette de Pointe-Noire au Congo.
Brazzaville. Bonjour les voisins et voisines. Arlette depuis Pointe-Noire. Je suis très passionnée de lecture. C'est un moment de détente et je lis surtout par nécessité. Ma consommation est variable, 1 à 3 livres par semaine. Je lis les magazines pour m'informer. Donc les magazines français tels que Nous Deux, Femmes Actuelles, Parents, Santé Magazine, Top Santé, Psychologie, surtout les romans Eau de Rose. Les séries Harlequin, j'adore. Mes livres marquants sont Jeanne hier. Ça revient et ça revient, ça revient. Je l'ai lu, j'étais au collège, mais Jeanne hier, c'est Jeanne hier. Et puis, j'en ai d'autres. Agnès Martin-Lugon, dont j'ai toujours cette musique dans la tête. Quand je vois les personnages, Yanis, Vera, Luc et leurs clients providentiels, il y a aussi Entre mes mains, le bonheur se faufile toujours d'Agnès Martin-Lugon. Sans oublier Daniel Steele, dont La clé du bonheur, L'irrésistible. Aussi, La magie de voir grand de David Joseph. J'adore la lecture, vive la lecture. Au revoir les voisins et à bientôt.
Alors Agnès Martin-Lugon, Daniel Steele ou Jane Eyre de Charlotte Brontë, si je ne dis pas de bêtises.
Qui prend le risque
autour de cette table?
On va dire les sœurs.
Les sœurs Brontë, exactement. les conseils lecture donc d'Arlette de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Laurie Pézeron, vous avez lu Jane Eyre?
Non.
Pas du tout. Classique de la littérature anglaise, je n'ai pas lu non plus, je vous rassure. Mais vous, c'est de littérature africaine et d'auteurs africains et afro-descendants dont vous parlez. Mm. Vous avez fondé le club Read en 2007, il a donc 15 ans cette année.
C'est ça.
À quel moment est-ce que vous vous êtes dit, je vais parler des livres que j'aime avec d'autres personnes?
Déjà, c'était plus... je pense que c'est une recherche identitaire, tout simplement, parce que quand on a un cursus classique en France, on connaît tous les Victor Hugo, les Stendhal et compagnie. Et c'est vrai que, étant d'origine guadeloupéenne, je me suis... Enfin, c'est très compliqué pour moi de citer un Aimé Césaire ou un Marie Scondé, parce que je ne les avais pas croisés dans ma scolarité. Et puis, j'ai pris ce virus de la lecture super tard. Quand je dis tard, c'est en sortant de l'école et je me suis dit, mais j'ai perdu trop de temps à ne pas pouvoir apprécier autant. En tout cas, comment ça m'était introduit, je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Et en fait, je me suis surtout rendu compte que ces auteurs-là, je ne pouvais ni les partager avec les gens au bureau, ni. Enfin voilà, j'avais personne avec qui le faire. Donc j'ai. Je fais ma dictatrice et je dis je vais imposer mon livre à tout le monde pour qu'on puisse le lire tous en même temps et qu'on puisse au moins en parler. Comme un bon film, on a envie de même un bon album de musique, on a envie de partager, d'en parler et tout. Et comme c'est une activité très individuelle, j'avais ce besoin-là de parler de ces bouquins que j'avais pas l'occasion de partager.
Alors, le magazine Actualité, lui aussi, a 15 ans cette année, avec des journalistes très impliqués qui, chaque semaine, partagent leur lecture du moment sur leur compte Twitter. Nicolas Garry, vous en faites partie. Votre lecture du moment, à vous, qu'est-ce que c'est?
Alors, moi, je suis en train de redécouvrir Corto Maltese, mais en italien. Ça a été une lecture qui, en français, a été extraordinaire. Et puis là, c'est une autre langue, ce sont d'autres aventures, c'est un autre personnage. Et comme j'ai la chance de pouvoir... un peu le comprendre en italien, je me suis fait un plaisir de dingue, c'est-à-dire les 10 exemplaires d'un coup, les 10 volumes, et j'y passe mes soirées actuellement depuis 10 jours.
J'en profite pour faire un petit tour de table. Pascal Perrault, votre lecture du moment?
Alors moi aussi, je suis dans une bande dessinée un petit peu différente, même si j'adore Corto Maltese également. Je suis dans la bande dessinée d'Emmanuel Guibert, qui est un petit peu ancienne maintenant, qui s'appelle Le Photographe. Une magnifique histoire qui mêle d'ailleurs la photographie et le dessin et qui est un récit en fait d'une mission de Médecins Sans Frontières en Afghanistan qui a un écho d'ailleurs avec l'actualité puisque c'était au moment de l'invasion soviétique en Afghanistan et pas sans rappeler ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine.
C'est un bel objet en plus comme BD. En plus de l'histoire, les photos, elles sont magnifiques.
C'est très beau. Ouais, c'est...
Bref. Et vous, Laurie?
Du coup, j'ai emmené mon petit livre avec moi. Donc, c'est Hommage à la femme noire de Simone et André Schwarzbart, qui est une réédition aux Caraïbes Éditions. Et c'est l'histoire de plusieurs femmes noires qu'on connaît. Enfin, même moi, j'en découvre plein dedans. Et voilà, c'est l'occasion de redécouvrir des parcours de femmes. Pas forcément de la Caraïbe, mais qui sont plutôt des héroïnes de l'esclavage.
Des portraits, donc.
Exactement.
Un livre de portraits et de bandes dessinées. On va continuer à compiler ces coups de cœur. Mais tout de suite, on va partir à Libreville, au Gabon, avec Mariama. Bonjour Mariama.
Bonjour.
Alors dites-nous Mariama, quel genre de lectrice est-ce que vous êtes, vous ?
Moi, je suis beaucoup plus une lectrice du 21e avec des bibliothèques et des livres en ligne. Donc, la lecture numérique me parle beaucoup plus que la lecture physique il y a quelques années.
Vous lisez sur votre ordinateur, ça veut dire ? Vous avez une tablette ?
Je lis beaucoup plus sur mon smartphone ou des fois sur mon ordinateur lorsque je fais des recherches au titre de revue de littérature pour la rédaction de mon mémoire. J'ai tendance parfois à avoir quelques minutes à aller en ligne et lire sur des bibliothèques numériques, notamment.
Et vous arrivez à trouver toutes sortes d'ouvrages sur ces bibliothèques en ligne ?
Oui, assez disponible, hein, assez disponible, parce qu'il y a un gain de place important et de nombreux livres disponibles avec éventuellement des écrivains ou des librairies indépendantes donc qui proposent des grands classiques de la littérature avec quelques livres gratuits. Étant étudiant, on a parfois des budgets qui sont assez restreints, donc c'est tout bénef.
Vous êtes seule dans votre entourage à faire ça ou c'est peut-être un phénomène générationnel de lire comme ça sur tablette quand on est étudiant ?
Je pense que c'est un fait générationnel. Après, c'est en fonction des préférences de tout un chacun. Il y en a qui préfèrent avoir un livre sur la main. Mais très souvent, quand on a la possibilité d'avoir ces formats-là sur notre téléphone, c'est beaucoup plus pratique parce que généralement, la version numérique d'un livre est entre 20 à 30% moins chère que la version papier. Donc, c'est autant économique et ça nous fait aussi un gain de place.
Alors, j'en profite pour poser une question à Pascal Perrault à ce sujet. Vous parliez tout à l'heure de ces jeunes qui passaient plus de 3h, 3h45, c'est ça, il me semble, sur
3h50 sur leur
tablette, mais peut-être qu'ils lisent.
Alors oui, tout à fait. Tout l'enjeu, d'ailleurs, est d'être là où sont les jeunes, en fait, pour leur donner envie de lire. On constate dans notre dernière enquête que 40% des jeunes de 7 à 19 ans ont lu déjà un livre numérique. On monte à 60% pour le livre audio, donc on voit une vraie évolution des pratiques. C'est important que l'on soit donc sur les tablettes pour faire découvrir la littérature sous toutes ses formes. D'ailleurs, on évoquait la bande dessinée. La bande dessinée s'adapte aussi au format des tablettes. Le seul petit inconvénient qu'on voit à la lecture sur ces écrans, c'est qu'elle peut être perturbée plus facilement par les réseaux sociaux, par l'envoi de mails, et on constate que parfois les jeunes en fait que l'on a interrogés ont plusieurs activités en même temps, c'est-à-dire qu'en même temps que leur activité de lecture répondent à des mails, à des messages sur les réseaux. Donc voilà, il faut être partout, mais chaque mode de lecture a ses avantages et ses inconvénients.
Et Mariama, justement quand vous lisez sur votre smartphone, est-ce que vous avez l'impression que vous lisez moins parce que vous êtes perturbé par des notifications, par exemple, ou d'autres choses ?
Personnellement, j'arrive facilement à me défaire des réseaux et des notifications parce que je suis quelqu'un, des fois, qui fait des pauses avec mon téléphone, peut-être pour une journée ou deux, ou peut-être 12 heures. Et des fois, je fais des lectures hors connexion, c'est-à-dire que j'arrive à télécharger le format où je l'ai acheté en ligne. Je le télécharge soit sur mon disque dur ou ma clé USB ou ma carte mémoire. Et donc, je me mets hors connexion. Et je suis dans une maison où il n'y a pratiquement pas de bruit, donc j'arrive facilement à me concentrer. L'avantage aussi de lire sur une interface, c'est la possibilité justement, par exemple, quand on a un intéressement pour des livres internationaux ou d'auteurs étrangers, on a la possibilité de faire directement des traductions avec les moteurs de recherche. Alors que pour un livre en papier ou un livre physique, c'est plus ou moins compliqué et ça demande davantage de démarches.
C'est vrai que ça offre tout un champ de possibilités différents. Vous lisez, vous, sur tablette autour de cette table ?
Pas du tout, je suis une vieille, moi. J'aime le papier, j'aime sentir le livre, je l'aime la noter, j'aime relire, tourner les pages. C'est vraiment une rencontre hyper physique, j'ai ce truc.
C'est sensoriel.
Exactement. Moi, je ne suis pas encore passée ni à l'audio, ni à la tablette. Je n'ai pas de réticence, mais mon smartphone il est trop petit, puis c'est pas
la même sensation.
Ouais.
Et vous, Nicolas Garry ?
Actualité, en réalité, s'est lancée en 2007 lorsque le livre numérique faisait ses premiers pas en France et même aux États-Unis. Et on avait décidé qu'il serait vraiment fondamental d'analyser, d'observer, de vérifier ce qui allait se passer, d'accompagner ce nouveau format. Il y avait une réticence à l'époque en France qui était pharaonique. Aujourd'hui, on parle de 20 à 30 % moins cher. Il a fallu que beaucoup de gens se battent pour que ce résultat soit obtenu, pour que les livres numériques soient vendus moins cher. Aujourd'hui, un livre numérique, ça reste quand même plus cher qu'un livre en format poche. Et on peut se poser la question de pourquoi. Mais oui, on a commencé, nous, comme ça. Les toutes premières liseuses de 2006, je me souviens, on en avait à la rédaction. Et c'est comme ça qu'on a débuté une partie de l'activité de cette rédaction autour du livre, de la lecture avant tout. Mais le format était intriguant. Il y a quelque chose de magique avec ces écrans, quand même.
Magique avec les écrans et magique avec, avec le bouquin, enfin l'ouvrage physique. Vous avez
Moi, j'aime bien le voir dans ma bibliothèque. Je sais qu'il est là, je sais le toucher, je peux le prêter. Non, je sais pas, ouais, je prête pas mes livres.
Mais ouais, moi non plus. Mariama, je crois que vous non plus, vous ne prêtez pas vos livres. Enfin, ceux que vous aviez en exemplaire papier, vous ne les prêtez pas.
Moi, j'en ai fait la mauvaise expérience. C'est une petite anecdote parce que quand j'étais en terminale, je lisais Je pleure en silence de Joe Peters, qui était un ouvrage qui était très intéressant et qui relatait un peu les réalités de la vie infantile dans certaines maisons qu'on ne pouvait pas deviner quand on est individu à l'extérieur. Et je l'avais prêté à un ami qui voulait justement se préparer au baccalauréat, au commentaire composé. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, ça fait 5-6 ans que j'ai plus de ses nouvelles. Il est parti avec mon livre et j'ai cherché à la voir et on est à des kilomètres loin. Donc, imaginez ma situation émotionnelle parce que j'étais très attachée à ce livre-là. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est terminé, désormais, place aux tablettes, place aux interfaces, et puis voilà.
Mais il ne faut pas prêter sa tablette non plus dans ce cas. Merci beaucoup, merci Mariama d'avoir répondu à nos questions et bonne journée à vous à Libreville. On va partir à présent à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est Bob qui est en ligne avec nous. Bonjour Bob.
Bonjour Amélie.
Alors Bob, vous êtes lecteur également, mais ça n'a pas toujours été un plaisir pour vous la lecture. Quel lecteur est-ce que vous étiez quand vous étiez plus petit ?
Oui, oui. Quand j'étais plus petit, c'était complètement difficile pour nous, parce qu'on était encore les enfants, et nos parents nous exigeaient de beaucoup lire, et consulter les documents qu'on nous donnait à l'école. Mais on était complètement ignorés. Quand nos parents nous disaient qu'entrer dans la chambre et continuer à lire, nous, on passait toute la jouer dans la chambre avec d'autres amis, mon grand frère, d'autres petits. Mais quand on a grandi, on a vu que les parents aussi, ils ont vraiment la raison. Et ils faisaient ça pour nos propres intérêts.
Donc on vous forçait à lire alors que vous préfériez jouer, ça se comprend quand on est enfant. Est-ce que par la suite vous vous êtes mis à aimer lire?
Oui, quand je me suis grandi, je suis devenu en sixième primaire et j'ai commencé à fréquenter les amis. Ils m'ont dit qu'il faut continuer à faire la lecture pour que tu puisses faire des études. Et moi-même, ici, quand j'ai essayé de consulter les livres qu'on nous donnait à l'école comme des cours d'options, pédagogie, didactique, psychologie, j'ai vu que c'est vraiment intéressant. Et c'est grâce à moi aussi aidé de développer aussi mon intelligence, ma conscience.
Donc les livres qui vous plaisent, vous, si je comprends bien, Bob, ce sont les livres dans lesquels vous avez l'impression d'apprendre des choses et que ça vous sert pour vos études, c'est ça, plutôt que des romans ou d'autres ouvrages de fiction, c'est ça?
Oui, c'est ça exactement.
Est-ce que vous recommanderiez, Bob, un livre qui vous plaît aux auditeurs qui vous écoutent?
Pardon?
Est-ce que vous recommanderiez un livre qui vous plaît aux auditeurs qui vous écoutent?
Bon, pour ça, je ne vais pas vraiment dire, parce que moi, je consulte les livres qui m'intéressent. Par exemple, quand on était en primaire, je consultais suivant la grammaire et d'autres cours, d'autres documents.
Merci beaucoup, Bob, d'avoir appelé 7 milliards de voisins. On l'a entendu et ça nous permet de faire un pont parfait. Forcer les enfants à lire, ce n'est pas forcément une bonne idée, Pascal Perrault. Ou est-ce qu'il faut les encourager?
Les enfants font souvent l'inverse de ce qu'on leur demande. Donc il ne faut pas être trop prescriptif. Mais on constate qu'il y a un développement de la prescription par les pères, de plus en plus, sur les réseaux sociaux. Ils ont de plus en plus recours aux conseils d'influenceurs, de sites internet qui peuvent leur donner des conseils. Les clubs de lecture aussi jouent un rôle important puisqu'il y a un partage de temps de lecture entre les pairs. Ce qu'il faut, c'est que chacun trouve sa lecture en fait qui va servir de déclencheur. Donc c'est un plaisir qui est individuel. Effectivement, ça peut être la connaissance, mais ça peut être aussi une fenêtre d'évasion, une envie de s'évader. On l'a constaté beaucoup pendant la crise sanitaire, une recherche de l'évasion par le livre, de découvrir d'autres pays, de découvrir d'autres personnes, découvrir l'altérité à travers le livre. Donc on trouve toutes sortes de facettes et c'est à chacun de trouver ce qu'il recherche en fait dans le livre.
Vous parlez de forme de lecture, Nicolas Gary, je crois qu'avec Actualité, vous travaillez avec l'association Lire et Faire Lire. Ça veut dire que ce sont des bénévoles qui font la lecture à des enfants.
Oui, il y a un premier point, Pascal l'évoque très bien, cette prescription juste là-dessus, de pair à pair, de gré à gré, elle intervient et elle est fondamentale. Et les réseaux qui nous échappent à tous à peu près, je dirais, à 42 ans aujourd'hui, moi je suis largué comme souvent, c'est le cas. Mais quand une ministre de la Culture dit publiquement pour la première fois depuis 30, 40 ans qu'on attend ça, et qu'elle dit « lire un manga, c'est lire », il y a aussi quelque chose de rassurant pour l'adolescent de se dire « je ne suis plus exclu ». Moi, à l'époque, c'était Dragon Ball, on était des parias. Dorothée, c'était l'ennemi public des mamans numéro 1. Aujourd'hui, qu'une ministre arrive à dire « lire un manga, c'est lire », il y a une discrimination qui s'achève. Il y a une transition qui s'opère, et ça, c'est quand même rassurant pour l'enfant qui se dit « je suis plus seul dans mon coin et je suis plus pointé du doigt ». Même s'il ne sait pas ce que c'est que le ministère de la Culture, bien évidemment. Il a au moins entendu un adulte qui passe à la télé qui dit ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change la donne et qui peut permettre d'avancer vers autre chose. Lire et faire lire, c'est une autre forme d'implication des bénévoles de tous âges qui interviennent dans des structures, des centres scolaires, des bibliothèques, des médiathèques, qui vont jusque dans des EHPAD, pour partager simplement le goût de la lecture et à voix haute. Alors pour l'enfance, on sait à quel point ça a une incidence phénoménale sur la construction, sur la découverte, sur l'alphabétisation plus globalement. Pour des publics plus âgés, c'est aussi un lien social qui se crée. Et c'est là, quelque part, qu'on entre vraiment dans la magie de ce qu'est la lecture, c'est-à-dire cette capacité à être un moment d'extrême intimité, un moment solitaire absolu, et pourtant un moment qui devient l'adhésion totale quand des centaines de milliers de personnes se retrouvent à travers un livre. Elles en ont lu un et ça devient extraordinaire.
Et c'est vrai, excusez-moi, mais moi j'ai une expérience complètement opposée où c'était un peu un complexe. Moi, le premier livre d'Aimé Césaire qu'on m'a offert, qui était un cahier d'un retour au pays natal, m'a été offert par un blanc. Et j'étais un peu scandalisée que ni ma famille, ni mes amis m'aient proposé ce bouquin. Je suis allée voir un peu mes parents un peu en colère en disant « Mais comment ça se fait que vous ne m'ayez pas proposé ça, quoi, à un moment donné ?» Ma mère, elle m'a regardée avec un air un peu perplexe. Elle m'a dit déjà ce qui était imposé à l'école. « Tu ne le lisais pas ?» Donc, sinon, on l'avait proposé quelque chose d'autre qui n'était pas obligatoire, tu l'aurais jeté encore plus loin. Donc, j'ai toujours eu tous les classiques à disposition. Pas de problème pour trouver les livres qu'on me proposait à l'école, à la maison. Mais du coup, il y a une curiosité qui est née de cette recherche, je pense, identitaire. Mais voilà, il y a aussi ce truc de l'école qui impose quand même un schéma et qui fait que parfois, on a très, très, très peu de portes d'entrée. Après, j'ai un petit garçon de 8 ans qui... alors lui, mon problème, c'est qu'il lit trop.
Il y a beaucoup de parents qui vous envient, je pense, quand vous dites ça.
Tout le monde me dit, mais c'est bien, sauf quand il est 23h et qu'il est en train de pleurer parce qu'il n'a pas fini son chapitre du manga de Naruto, Dragon Ball et compagnie, et que son maître estime que ce n'est pas de la lecture, pourtant il lit aussi des romans, mais il y a toujours un contre-exemple, mais c'est vrai que ce dont je me suis rendu compte aussi avec ces 15 ans de club de lecture, c'est que le conseil des pairs, le bouche à oreille, hein, comme un bon resto encore, enfin j'aime bien comparer à des choses assez simples, se fait assez naturellement. Et c'est ce qui est aussi intéressant j'appelle ça vraiment un virus parce que Parce qu'une fois qu'on est dedans, une fois qu'on est tombé sur le livre qui nous plaît, on a envie de revivre cette sensation de plaisir, quoi. C'est comme un bon plat.
On va continuer à parler de ça dans quelques instants. On parlera notamment du club de lecture enfant que vous avez créé, Laurie Pazeron. Mais avant ça, on fait une petite halte, toujours en République démocratique du Congo, avec le slameur Ben Kamuntu et son dernier morceau, Amour Congo.
Amour Congo, je t'écris ces quelques mots. Dans le silence lointain de tes forêts, la profondeur de tes eaux. Abreuve-moi de la sueur de tes rêves, Elikia Mabélé. Du sang de Lumumba au Kitompolo, du sang de Moulélé. Amour Congo m'a coupé au poumon perforé. Ces cauchemars mortifères du caoutchouc rouge continuent à te hanter. Il t'est prête, ton masque est volé, la compagne de regret. Depuis 1885, ils t'ont jamais fait l'amour. Ils continuent à te violer. Ce monde est aveuglé par l'éclat de ton diamant. D'écran immonde de gadgets alimentés par ton cobalt et ton coltan. Ce monde bouche ses oreilles pour ne pas écouter tes sanglots. Détourne le dos face à cette maudite guerre qui ne dit jamais son nom. Amour Congo, moi je continuerai à t'écrire des poèmes. Des chansons d'amour vrai, je continuerai à te rêver en temps de guerre. Je continuerai à te dessiner des fleurs en veille ou en profond sommeil. Je continuerai à t'imaginer en paix au lever et au coucher du soleil.
Milliards de voisins sur RFI, une émission consacrée aujourd'hui au plaisir de lire, aux livres qui vous ont marqué et que vous recommandez, pourquoi pas, aux auditeurs qui nous écoutent. En studio avec nous, Nicolas Garry, cofondateur du magazine littéraire en ligne Actualité, avec deux T, Pascal Perrault, directeur général du CNL, le Centre National du Livre, et Laurie Pazeron, fondatrice du club de lecture Read. Et on reste en République démocratique du Congo, encore une fois, un peu plus à l'est, à Goma. Nous sommes en ligne avec Ghislain Kabuyaya, bonjour.
Bonjour.
Ghislain Kabuyaya, vous avez fondé avec une petite équipe les éditions Mlimani, une édition qui réédite les auteurs congolais. Pourquoi est-ce que ces rééditions étaient nécessaires selon vous? Pourquoi la naissance de Mlimani était importante pour le monde du livre en RDC?
Mlimani a été lancé pour remédier à certains problèmes. Notamment, on s'était rendu compte que 95% des livres qui sont édités par les auteurs africains et particulièrement par les auteurs congolais étaient édités en Europe. Et du coup, pour que ces livres arrivent en RDC et particulièrement en RDC et d'une manière générale en Afrique, le coût lié à l'importation faisait à ce que ces livres soient vendus à un prix vraiment très, très cher. Et du coup, les livres devenaient comme un luxe. Alors, Mlimani Édition est venu remédier un peu à cela. Ainsi, nous sommes maintenant arrivés à pouvoir rééditer les œuvres des classiques congolais. Et nous comptons déjà chaque fois qu'il y a une édition, chaque fois qu'il y a une réédition, une publication, et nous arrivions à rabattre les prix afin qu'ils soient accessibles à tout le monde à un prix vraiment abordable.
Est-ce que vous pourriez donner justement des exemples de prix, le prix d'un, comme vous l'avez dit, d'un livre, pas des éditions Mlimani, mais d'un livre qui va être importé et qui va être considéré comme un produit de luxe, et le prix d'un livre des éditions Mlimani, pour qu'on imagine un petit peu.
Voilà, donc lorsque le livre est par exemple réédité au niveau de l'Europe, quand il arrive au niveau de Goma, au niveau de la RDC, au niveau du Nord Kivu. Très souvent, le livre est acheté à un prix vraiment très élevé. Par exemple, le livre peut être acheté à 30 $ ou 40 $. Alors, avec Moulimane, on s'est dit quand même qu'on peut arriver à rééditer ce même livre-là et à le rendre accessible au public à un prix abordable, comme par exemple pour le livre qu'on a essayé un peu de lancer récemment, le livre de Laurent Cassini, qui est un auteur de Bukavu. Le livre est vendu à partir de 5 $. Et nous avons deux prix, nous avons 5 $ et 7.5. Il y a les papiers blancs et les papiers jaunes. Et le public vraiment est dans l'engouement, il se sent en tout cas très à l'aise et parvient facilement à accéder au livre, au contenu du livre, à un prix abordable. Mais également, on s'était dit aussi qu'il fallait que nous puissions chaque fois mettre à la portée du public des livres qui parlent aux Congolais, des livres qui parlent aux Africains. C'est-à-dire le contenu du livre, c'est un contenu qui parle à l'Africain. L'Africain s'y retrouve, les Congolais s'y retrouvent, et ça fait du bien au lecteur parce qu'il arrive à s'y retrouver dans le livre.
Comment est-ce que vous faites pour baisser les coûts de ces livres que vous rééditez? Alors on suppose que il y a le côté exportation qui enfin on peut déjà jouer sur le transport, mais vous travaillez avec peut-être des acteurs locaux.
Voilà, nous travaillons avec des imprimeurs locaux ici au niveau de Goma, donc tout est fait au niveau local, c'est-à-dire la chaîne de qui est liée à l'industrie du livre au niveau de Mlimani. Donc tout s'est fait au niveau local. Et cela nous permet de parvenir à faire l'impression de nos ouvrages ici à Goma, à faire l'édition ici au niveau de Goma, afin de baisser les coûts, mais aussi de promouvoir aussi la main-d'œuvre locale, parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui parviennent à trouver de l'emploi, à part le fait qu'on fait tout ici au niveau local. Et ça baisse un tout petit peu les coûts liés à la production.
On suppose du coup que vous ne faites pas énormément de bénéfices. Dans ce cas, comment est-ce que vous faites pour trouver des financements pour justement entamer cette production de livres?
Voilà. Donc pour le moment, je peux dire par rapport aux subventions. Donc ce qui intéresse beaucoup Mlimani actuellement, c'est pas de générer d'abord beaucoup de bénéfices. Le grand challenge qu'on s'est d'abord dit, on s'est d'abord dit qu'il faudrait que nous puissions arriver à rendre le livre disponible, mais également tout ce qui est lié aux subventions pour que l'équipe puisse arriver aussi à générer un peu de revenus et tout, ça pourra arriver progressivement. Mais d'abord, le premier objectif de Mlimani, c'est d'abord d'arriver à asseoir une politique selon laquelle le livre est disponible et à un prix accessible. Donc on pense que les subventions pourront arriver au fil du temps, parce que nous pouvons aussi, j'ai beaucoup plus en avoir besoin pour arriver aussi, par exemple, à donner parfois des livres gratuitement dans les écoles, pour que les élèves, les étudiants puissent arriver à lire les livres qui nous parlent. Et donc nous pensons que par rapport aux subventions, ce n'est pas trop notre priorité pour le moment, mais d'abord nous souhaitons d'abord travailler, rendre les livres disponibles, et puis après tout cela, je pense que ça pourra arriver, et ça sera toujours à l'avantage de tous, de la communauté en quelque sorte.
Parce que je ne l'ai pas précisé, j'ai oublié de le préciser, excusez-moi Ghislain Kabouyaya, mais Mlimani, c'est une toute jeune maison, hein. vous êtes un bébé du mois d'avril, et vous avez voilà. Pour l'instant un livre paru, dont vous parliez, le livre de Laurent Cassindi, « Sévérité qui nous oui. mentent ». C'est un livre qui est sorti, je crois, en 2018, un auteur congolais qui vit à Bruxelles, qui a gagné le prix Macomi de la littérature congolaise, donc un très grand ouvrage. De quoi ça parle ce livre, Ghislain Kabouyaya, et pourquoi est-ce que vous avez choisi celui-là pour lancer la maison Mlimani?
C'est vraiment un livre d'éveil des consciences. C'est un livre d'éveil de la conscience patriotique des jeunes et à la fois de toute la communauté congolaise à la fois. Alors, on s'est dit que par rapport aux défis auxquels le pays s'est heurté actuellement, on s'est dit quand même qu'il fallait choisir un ouvrage qui nous parle, un ouvrage qui évoque les défis quotidiens des Congolais. Un ouvrage qui évoque l'ensemble des réalités sociales auxquelles beaucoup de gens se heurtent, et donc parfois, dans la plupart des cas, ils n'arrivent pas à trouver des solutions adéquates par rapport à certains problèmes. Et donc, le livre à la fois évoque des défis, mais également propose des solutions à emprunter pour que nous puissions arriver à sortir un peu parfois de ce cercle-là vicieux, un peu des souffrances ou bien des problèmes qui sont liés à ceci ou cela par rapport à la société. Donc, c'est vraiment un ouvrage intéressant que tout Congolais devrait lire, et qu'en les lisant, on arrive vraiment à trouver beaucoup de paramètres qui nous amènent bien sûr à percevoir le Congo avec d'autres lunettes. et à nous dire que tout est possible pour que nous puissions arriver à relever certains défis afin d'avoir un Congo plus beau que celui que nous avons aujourd'hui.
Et j'en profite, je pense que ça a peut-être un lien. Ce nom Mlimani, ça veut dire, je crois, à la montagne en Swahili. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom?
Bon, comme la ville de Goma est construite au pied du volcan Nyiragongo, alors Mlimani, c'est au fait, ça symbolise un tout petit peu le volcan Nyiragongo en quelque sorte. Donc c'est une maison d'édition qui est bâtie au pied du volcan Nyiragongo. C'est un peu ça l'essence.
J'ai une toute dernière question pour vous, la même qu'à nos autres invités, Ghislain Kabouyaya. S'il y a un livre que vous souhaiteriez faire découvrir à nos auditeurs, aux auditeurs qui nous écoutent, lequel ce serait? À part celui de Laurent Cassindi, évidemment.
Ok, celui que j'aime ou bien juste un livre
pour... Un livre que vous conseillez aux auditeurs, un de vos coups de cœur.
D'accord. C'est le livre du feu professeur Kamana, Le Révolte Constructrice.
Très bien. On note, on fera sûrement une petite liste de tous les coups de cœur évoqués sur la page de l'émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, les éditions Mlimani, qui ont aussi un site internet sur lequel vous pouvez commander le livre qui a déjà été réédité, mlimani-édition.com. Merci beaucoup, Ghislain Kabouyaya.
C'est moi qui vous remercie.
Laurie Pezeron, est-ce que cette question d'accessibilité du livre et de certains auteurs, vous l'avez constaté aussi?
Déjà, il y a une grosse évolution entre 2007 et aujourd'hui. C'est sûr que, enfin, moi, avant Aimé Césaire, on le trouvait en littérature étrangère, alors que c'est un auteur français, tout simplement. Et il y a des maisons comme la maison d'édition Présence Africaine qui a failli mourir et puis qui a survécu, mais pareil avec tout ce qui est internet et publication en ligne et compagnie a pu sauter le pas. Je pense qu'il y a une évolution en permanence en fait de la littérature et de toute façon les livres renaissent. Notre ministère de l'Éducation avait écrit La Condition Noire qui était plus éditée depuis un petit moment. Il suffit qu'il soit ministre pour que ça soit réédité. Donc il y a toujours, c'est aussi ce qui est très, très, très fort avec le livre, il y a toujours une actualité qui fait que il y a des choses qui reviennent. Je ne sais plus où je voulais en venir du coup sur...
Est-ce que le goût de la lecture, selon vous aussi, peut être, peut dépendre des représentations et des histoires disponibles quand on est enfant? Je pense au fait, par exemple, alors il y en a de plus en plus, ça change, mais des petites filles noires dans la littérature jeunesse, c'était très rare encore quelques années.
Je pense que c'est primordial. J'ai 41 ans, j'ai grandi sans, et en même temps, je pense que dans les années 80, il y avait plus de diversité qu'aujourd'hui dans certains livres qui étaient complètement naturels. Faut pas oublier que une série comme Cosby Show était une série la plus regardée à la télé dans les années 90. Il y avait rien de choquant dans tout ça. Et c'est vrai que voilà, on a un exemple comme Lorraine Safou avec ses millions de papillons noirs qui a eu un gros succès. C'est vrai que moi, quand j'ai eu ce petit garçon, c'était important pour moi qu'il puisse s'identifier physiquement dans les livres que j'allais lui proposer, mais aussi dans la société multiculturelle dans laquelle on vit. C'est pas que blanc, c'est pas que noir, c'est pas que vert, c'est pas que jaune. C'est important pour moi qu'il y ait quelque chose de diversifié. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé ce club de lecture pour enfants, Read Kids, en 2016, pour le coup. C'était simple, si c'était monochrome, je prends pas le livre, faut qu'il y ait vraiment une diversité. Voilà, c'est important pour moi. Et puis, je pense que les enfants aiment qu'on leur raconte des histoires, de toute façon. Donc, plus tôt, et en plus, il n'y a pas d'âge, même à 6 mois, ils peuvent mâchouiller, tourner des pages, entre les livres audio, les podcasts, enfin, vraiment... Ils aiment qu'on leur raconte des histoires et on peut leur raconter 1000 fois, ils demanderont encore. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit être juste éteindre la télé et mettre un livre, c'est même plus simple, quoi, je crois. Vraiment.
Alors, on l'a entendu dans ce que disait Ghislain Kabouyaya, le livre peut parfois être aussi un produit de luxe. Il n'y a pas forcément besoin de partir à l'étranger pour se rendre compte de ça. Ce n'est pas forcément adapté à toutes les bourses. Mais il y a ce fameux pass culture. Ici, en France, on est assez bien lotis là-dessus. Pascal Perrault, c'est 300 euros offerts, je crois, aux jeunes pour des activités culturelles. Pas seulement le livre, d'ailleurs, à partir de 18 ans. Et des sommes un petit peu plus restreintes qui sont aussi offertes dès 15 ans, il me semble.
30 euros, effectivement, dès l'âge de 15 ans. Et donc, avec une progressivité jusqu'aux 300 euros à l'âge de 18 ans, qui effectivement solvabilise en quelque sorte une demande des jeunes et qui se concentre très fortement sur le livre. Donc on se réjouit au Centre National du Livre que le Pass Culture permette d'acheter beaucoup de livres. Alors on parle beaucoup du manga, effectivement beaucoup de jeunes se rendent en librairie pour acheter des mangas, mais je partage tout à fait ce que a dit tout à l'heure Nicolas. Il s'agit d'avoir une vision décomplexée du livre et de la lecture, et tous les livres sont bons à prendre, chacun a son univers. Et puis surtout, on constate de plus en plus que les jeunes vont en librairie pour acheter un manga et repartent aussi avec d'autres livres, avec des livres différents que les libraires leur ont conseillé. Et donc, c'est un grand intérêt aussi de ce Pass Culture, c'est de les amener à se rendre auprès des professionnels qui écoutent leur goût personnel et les conseils dans leur lecture. Et ils repartent souvent avec des romans, des livres de bien-être, tout type d'ouvrages.
Il y a également un festival qui se déroule depuis le 22 juin, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'au 24 juillet, Partir en livre.
Tout à fait. Alors, c'est la 8e édition de notre manifestation nationale Partir en livre. C'est la grande fête du livre jeunesse que nous organisons tous les ans, avec cette année une thématique autour de l'amitié. On nous a semblé intéressant, après cette période de crise sanitaire, de revisiter les liens entre chacun. On avait retenu l'amour comme thématique des nuits de la lecture au mois de janvier. Et donc nous faisons écho à cette thématique avec l'amitié cette année. Nous avons deux marraines, Christelle Dabos et Olivia Ruiz, et nous avons plus de 4500 événements à travers toute la France cette année, qui sont référencés, et nous soutenons plus particulièrement 200 structures qui organisent des activités qui sont très, très variables, mais qui ont toutes pour objet de donner le goût de la lecture aux plus jeunes, avec des goûters littéraires, des promenades contées. Et puis cette année, nous organisons aussi des livrodromes, un livrodrome qui sillonne la France, un petit peu à la manière du Tour de France, qui va se déplacer, on s'est rendu à Liévin, à Toul, à Mont-de-Marsan, à Bergerac, à Saint-Étienne. Et ce livrodrome, c'est un petit parc d'attractions littéraires avec des activités très, très ludiques, un cabinet de voyance littéraire, par exemple, où les personnes sont conseillées dans leurs livres en fonction de leur goût, des tatouages autour de Molière, après avoir répondu à un petit quiz autour de notre grande plume nationale, toutes sortes d'activités qui ont pour objet de, là aussi, de décomplexer la lecture et de donner envie de découvrir des livres.
C'est ludique.
C'est très ludique. Nous avons aussi 860 auteurs qui sont mobilisés, puisque nous croyons beaucoup à la rencontre entre l'auteur et les jeunes publics. C'est pour ça, d'ailleurs, pour la grande cause nationale. Mais au-delà, d'ailleurs, ce sont des activités pérennes. Nous avons développé des résidences en milieu scolaire. Nous avons développé, dans le cadre du Pass Culture, que nous évoquions tout à l'heure, mais cette fois sur la partie collective du Pass Culture, qui est dédiée aux enseignants, des rencontres d'auteurs à l'école. Nous espérons en faire plus de 600 ou 700 dès cette année. Et tous ces moments privilégiés, que ce soit des moments de partage dans le cadre de manifestations nationales, dans le cadre de rencontres plus personnalisées dans le milieu scolaire ou en colonie de vacances. On fait aussi une cinquantaine d'auteurs en colonie de vacances cette année. Tous ces moments privilégiés peuvent permettre de créer le petit déclic qui va ouvrir les voies de la lecture.
Et là, excusez-moi, mais la rencontre d'auteurs, enfin moi j'ai reçu Laurent Safou, puis j'ai reçu d'autres auteurs Alors pour les enfants, c'est toujours impressionnant. C'est elle qui a écrit. et ça leur permet aussi d'avoir des vocations parce qu'ils expliquent un peu comment ça se passe. Et puis il y a aussi dans l'accessibilité, il y a les bibliothèques nationales, enfin municipales. Ça faut vraiment pas l'oublier. C'est un bel outil dans toutes les villes en France. J'ai croisé des mamans qui m'ont demandé plusieurs fois, mais c'est gratuit. Ben oui, et vous pouvez emprunter jusqu'à 20 livres. Et même ça, parfois...
Ce qu'il faut, c'est penser à les rendre.
Oui, c'est ça. c'est surtout ça. Mais voilà, quand on lâche un enfant dans une bibliothèque, il trouve toujours quelque chose, quoi. C'est vraiment un élément qui ancestral pour moi, qu'il ne faut pas négliger et qui... ça coûte moins cher que des baskets Jordan, que des grands écrans, que tellement de choses super chères dans une société de consommation dans laquelle on est. Et puis il y a tous les livres d'occasion, tous les sites type Momox et compagnie. Enfin, pour le coup, je trouve que vraiment le livre, il est accessible.
Il y a une autre initiative aussi, je l'ai remarqué dans une librairie qui est en Île-de-France, à Nanterre, les livres suspendus, qui fonctionnent un peu comme les cafés suspendus que vous connaissez peut-être. Hein. Mmh. Le principe, c'est comme dans un café, on achète son café, puis on en paye un en plus pour quelqu'un qui serait dans le besoin. Et ben, ça existe aussi pour les livres. Donc voilà, toute une ribambelle d'initiatives pour donner envie aux enfants et aux adultes de lire, redonner le goût de la lecture. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités, Laurie Pezeron, Nicolas Gary et Pascal Perrault. On va se quitter avec le chanteur burkinabé Alif Naaba. C'est Asanata sur RFI. I'm so come, di come we fo, nambo fo. Fo yinge mpe kam we fo, nando fo. Nando fo I'm so come di come we fo nambo fo fo inge mpe kam we fo nando fo o asanata. I'm soon going beneath Asanata. Asanata. While you don't saddle Boda, Tirana Zumbe. Mam saddling it, a fubeo savire. Nudo, Nampure. Mam ni rien de faux. Oh oh oh, winde buinge bo asanata, asanata, am sungom benifo asanata, asanata. Milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Juliette Bro, Elsa Olaizola et Romain Dubrac. Demain, journée spéciale indépendance de l'Algérie sur RFI. 7 milliards se penchera sur les femmes de la diaspora algérienne ici en France. Comment les plus âgées ont-elles vécu l'arrivée ici? Comment les plus jeunes se sont battus pour leur liberté? Pour témoigner, appelez-nous dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. À demain, même heure, sur RFI.
Sept milliards de voisins, c'est fini.